Bonsoir, on va commencer notre soirée. Je suis content qu'on soit nombreux. Vous n'allez pas être déçus. J'ai lu les textes, je peux vous assurer qu'ils sont intéressants. Donc je ne vais pas faire un commentaire avant. Je vous passe la parole. Didier Gray, psychanalyste à Paris, il va parler sur le titre « La diarchie de l'inconscient ».
La diarchie de l'inconscient. Oui. Il me revient ce soir de commenter ce troisième extrait de ce dernier chapitre intitulé « Le rat dans le labyrinthe » du séminaire encore de Lacan. L'histoire du rat viendra juste après cet extrait. En fait, mon commentaire se situe entre le langage, d'abord ça n'existe pas, et le rat qui spécifie le rapport entre savoir et apprentissage. Ensuite viendra le cœur, si l'on peut dire, de ce chapitre, l'hypothèse lacanienne, qui sera développée lors des prochaines séances. Nous sommes donc toujours dans cette première partie de ce chapitre qui apporte de grandes avancées sur l'inconscient, le langage et le concept de la langue. Donc si le langage, ça n'existe pas, il n'en est pas de même de la langue, puisqu'elle nous affecte le corps même. C'est par là que commence Lacan dans cet extrait, qui est selon moi si important, car il donne une définition de l'inconscient que je pensais nommer au départ bicéphale, l'inconscient élaboré comme langage et l'inconscient comme savoir. Mais à y réfléchir, il ne s'agit pas vraiment d'une opposition, et l'un ne va pas sans l'autre, l'un et l'autre nous gouvernent, pourrait-on dire. D'où mon titre de la diarchie de l'inconscient, ce qui peut donner une certaine dimension politique à cette conception nouvelle de l'inconscient qui n'a pas été sans conséquence sur la pratique de la psychanalyse. Si l'exercice du savoir représente une jouissance et que la langue a rapport avec le réel, ce dernier chapitre du séminaire vise à introduire la différence à partir de laquelle pourra s'écrire quelque chose du réel et de la jouissance. Cette altérité ne sera plus celle de l'articulation signifiante, mais celle qui peut s'extraire à partir de la jouissance elle-même. L'expérience analytique enseigne que la jouissance trouve sa substance dans la matière même de la langue et du langage. Lacan désigne par la langue, en un seul mot, ce qui donne forme à la jouissance au cœur même de la langue, ce qui de la langue est en résonance avec ce qui se jouit du corps. La langue est ce que nous pouvons isoler dans la langue de chacun. C'est aussi la fonction à partir de laquelle quelque chose peut s'écrire de la jouissance. Elle ne sert pas qu'à la communication comme l'expérience le démontre. C'est la langue, Lacan la qualifie de la langue dite maternelle, comme nous l'avons vu, et elle n'est pas pour rien dite ainsi. La langue est constituée à partir des premiers mots, des premières phrases entendues par le nourrisson. Elle est édifiée par le bain du langage que le sujet habite au moment de son arrivée dans le monde. Aussi bien la mélodie, le son, la tonalité la caractérisent. Elle se constitue aussi à travers les diverses rencontres de l'être parlant avec les autres qui l'entourent et qui lui parlent ou se taisent. La jouissance qui est en jeu dans la langue est une première réponse au réel auquel le sujet est confronté. C'est dire que la langue n'est pas seulement reprise des paroles entendues, elle est le résultat d'un choix, elle est une réponse qui garde en son cœur la trace d'une jouissance que le sujet peut ignorer, mais à laquelle il consent. Ce n'est pas l'apprentissage qui est au principe de son advenue, mais l'expérience de jouissance. Alors venons-en à ce commentaire. Premier paragraphe, je l'ai appelé « Les effets de la langue ». Je cite Lacan, première phrase. La langue nous affecte d'abord par tout ce qu'elle comporte comme effets qui sont affects. Dans notre précédente séance, nous avons insisté avec Lacan sur le fait que l'inconscient est un savoir et non pas une vérité, mais un savoir-faire avec la langue dite maternelle qui nous affecte. Ainsi, la langue, comme nous l'avons vu, est empreinte de la langue maternelle car elle contient des bribes de celle-ci. Elle est liée aux premières expériences du sujet, qu'elles soient de satisfaction ou de douleur. Si l'on peut dire que l'on partage une même langue maternelle, la langue est non seulement propre à chacun, mais c'est aussi ce qui, à notre insu, est chargé des effets sur le corps, des effets de jouissance liés à notre prise dans le langage. Il y a donc des effets de la langue, et ce sont les affects qui sont la preuve de ces effets. Preuve du savoir de la langue en tant que savoir insu, un savoir dont le sujet est absent, un savoir sans sujet. Lacan nous avait déjà indiqué que la fonction première de la langue n'était pas la communication. Là, dans ce premier paragraphe, il nous indique que la fonction principale de la langue, c'est d'affecter la jouissance. C'est à partir de l'inconscient que nous avons un témoignage des effets de la langue. Ces effets se manifestent par des affects énigmatiques. Mais Lacan ne les détaille pas, car tout affect peut être énigmatique ou pas. Ça dépend s'il fait énigme ou pas pour le sujet. Cette présence témoigne que ces effets touchent au réel et que le corps en est affecté. La langue a un effet d'affect car elle affecte le corps, elle marque le corps, s'imprime comme effet éprouvé, et c'est cet affect de corps que Lacan appelle jouissance. La langue opère une première mise en forme du réel, sous la forme d'un savoir, qui se traduit au niveau des affects et de la perplexité qui peut en être la trace. Il situe ici l'inconscient comme témoignage des effets de la langue, même s'il ne le précise pas. On peut avancer ici qu'il évoque plutôt la structure névrotique. Peut-être que d'un point de vue clinique, on pourrait dire que de la même façon, le délire, l'hallucination, les phénomènes élémentaires du psychotique témoignent de ces effets, mais dans une dimension de certitude. La langue se distingue du langage qui résulte de l'articulation de deux signifiants. Il y a d'un côté dans ce paragraphe, je cite Lacan, « Si l'on peut dire que l'inconscient est structuré comme un langage », fin de citation, et de l'autre, l'inconscient comme savoir, que l'on peut aussi nommer l'inconscient la langue. L'inconscient structuré comme un langage n'est rien d'autre que l'inconscient en tant que je le supporte de son déchiffrage. C'est ce qu'il développera dans le paragraphe suivant. Mais revenons encore à la langue. Comme on relie les différents sons pour prononcer des mots, la langue articule les choses sans produire pour autant une liaison. En cela, la langue se distingue du langage qui résulte, lui, de l'articulation de deux signifiants. Il s'agit ici de choses au sens où Freud a pu parler de représentation de choses. Et cette articulation va beaucoup plus loin que ce que l'être parlant peut en énoncer comme savoir. C'est ce que veut dire Lacan quand il annonce, je le cite, « C'est en ceci que les effets de la langue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l'être qui parle est susceptible d'énoncer. » Avec cette phrase, Lacan veut nous dire que l'inconscient comme savoir est un savoir inaccessible dans sa totalité. On ne peut en attraper que des bouts. Cela veut dire aussi que le savoir de l'inconscient, en même temps, il est toujours là. Il n'a pas à être fabriqué. On élucubre à son sujet pour essayer d'en attraper quelque chose. Lacan utilise l'expression « l'être qui parle ». C'est en effet le sujet parlant. C'est le sujet qui est présent dans le cadre de l'inconscient langage, l'inconscient déchiffrage. C'est le sujet qui est défini par sa parole, qui est du côté du manque à être. Plus tard, il introduira la notion de sujet parlé, permettant ainsi l'émergence d'un être qui prend consistance par les effets incarnés de la langue. Ce sera le parlêtre. Car en tant que parler, le savoir est au niveau de la jouissance. Je cite Lacan dans le chapitre précédent, la page 108. Je parle sans le savoir. Je parle avec mon corps, et ceci sans le savoir. Je dis donc toujours plus que je n'en sais. C'est là que j'arrive au sens du mot sujet dans le discours analytique. Ce qui parle sans le savoir me fait je, sujet du verbe. Ça ne suffit pas à me faire être. Il y a du rapport d'être qui ne peut pas se savoir. » Fin de citation. Il s'agit donc d'un être qui noue la parole à la jouissance d'un corps, contrairement au sujet, qui n'entre en rapport qu'avec le signifiant. Deuxième paragraphe de ce commentaire. J'ai nommé un langage hypothétique. Je cite Lacan. « C'est en cela que l'inconscient, en tant qu'ici je le supporte de son déchiffrage, ne peut que se structurer, comme un langage toujours hypothétique au regard de ce qui le soutient, à savoir la langue. L'inconscient structuré comme un langage veut dire qu'il n'est pas un langage, mais que c'est par lui que l'on doit en passer pour savoir la fonction, la langue particulière à chacun et faire l'hypothèse de l'inconscient. D'ailleurs, la définition même du signifiant, un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant, ne s'avère qu'au déchiffrage. C'est parce qu'on déchiffre qu'on peut dire que le signifiant représente un sujet pour un autre. Alors venons-en à ce langage toujours hypothétique. Cela m'a fait penser à cette expression qu'on entend parfois dans certaines institutions où nous travaillons. Il faut trouver le sens à tout acte ou toute parole du patient. En fait, trouver du sens, ça veut dire ajouter d'autres signifiants. Ça veut dire donner du sens au S1, mais une fois que le S1 a reçu le sens d'un deuxième signifiant, il reste tout aussi énigmatique qu'avant. Donc, à son tour, il se met à fonctionner comme un autre S1 auquel on tente de donner du sens, et ainsi de suite. On entend aussi très souvent des analysants qui, après des années d'analyse, veulent toujours donner un sens de plus à leurs symptômes. Donner du sens au sens, ce qui ne s'arrête jamais. D'ailleurs, dans la troisième, Lacan laisse entendre qu'à nourrir le symptôme de sens, on peut le faire proliférer ou l'éteindre. L'éteindre, mais peut-être pour mieux le faire renaître de ses cendres. Donc cette expression « langage toujours hypothétique » renvoie à l'expression commentée lors de notre dernière séance par Louis Siskovitch à la même page, un peu plus haut. Le langage comme une élucubration de savoir sur la langue. Donc si tout ce qu'on élabore de déchiffrage à partir de la langue est hypothétique, alors même la tentative de savoir ce qu'il en est des effets de la langue est hypothétique. Je me suis amusé à chercher la définition de l'adjectif « hypothétique » en me disant que Lacan ne devait pas l'employer par hasard. En effet, il y a le sens commun, celui d'incertain, de spéculatif, voire plus péjoratif, de douteux, que l'on connaît quand on parle de quelque chose d'hypothétique. Mais il y a aussi un autre sens, plus grammairien, pourrait-on dire, car l'adjectif « hypothétique » se dit aussi d'une proposition conditionnelle introduite par la conjonction « si ». Hypothétique se dit d'un jugement de la forme « si A, alors B ». Il s'agit donc de la supposition d'une chose, possible ou pas, d'où l'on peut déduire les conséquences. En fait, une supposition qui sert à exprimer une hypothèse. Et c'est bien ce que fait Lacan quand, dans la suite de cette leçon, il nous présente son hypothèse consistant à dire que l'important n'est plus de produire l'articulation signifiante. Continue le commentaire. Je cite Lacan, « La langue, c'est ce qui m'a permis tout à l'heure de faire de mon S2 une question et de demander est-ce bien 2 d'EX dont il s'agit dans le langage ?» Alors, en effet, j'ai essayé d'apporter un commentaire un petit peu différent de celui de Nadine Naïtali qui avait aussi eu ce passage un petit peu... commenter. En effet, en introduisant le concept de la langue, Lacan sépare donc l'inconscient langage de l'inconscient savoir. Comme nous l'avons vu dans l'inconscient langage, les S1 reçoivent leur sens des S2 auxquels ils se rapportent. Mais dans l'inconscient savoir, peut-on se poser la question de la valeur de ces S2? Est-ce bien 2? S2 dont il s'agit. C'est-à-dire, est-ce que les signifiants font vraiment chaîne dans l'inconscient savoir? Pour l'instant, cela reste une question. Lacan, vous l'aurez remarqué, joue aussi sur l'équivoque 2 d'EX et 2 comme 2 signifiants. Mais si l'équivoque peut avoir des effets de sens, elle n'a rien à voir avec le sens, elle a à voir avec l'écrit. C'est parce que j'ai écrit au tableau S2 et S2 que l'équivoque se révèle. Cela ne se distingue que par l'écrit. C'est par l'écrit qu'on lève l'équivoque. On comprend mieux ce qui parfois nous fait sourire à leur insu dans les petites histoires que racontent les enfants qui ne savent pas encore écrire. Les jeux de mots qu'ils font malgré eux. Pourquoi cela nous fait rire? Cela vient de nous, le rire, et pas d'eux. Mais pour cela, il faut être au moins deux. Et d'ailleurs, dès qu'ils sauront écrire, ils n'en feront plus de jeux de mots. Cette fonction de l'écrit et de l'équivoque a déjà été développée par Jacques Adam en décembre dernier, lors de son commentaire d'un passage du séminaire. Je le cite. « Comme s'il y avait, dans la langue même, cette sorte de savoir déjà là qui permettrait de produire l'effet poétique. » C'est aussi pourquoi, peut-être, au début de son enseignement, Lacan trouvait dans la langue chinoise une telle richesse de l'équivoque, puisqu'on peut l'apercevoir, cet équivoque, directement dans l'écriture de certains caractères. C'est un peu mon dada, vous savez. Par exemple, en chinois, la distinction, je vais faire court, entre l'article « il » ou « elle » ne peut pas se faire à l'oral. Ils se prononcent tous les deux avec la même tonalité, « ta », et donc on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Seule l'écriture lève l'équivoque et permet l'émergence d'un signifiant non dit. Mais dans l'exemple que je viens de donner, il s'agit encore d'un déchiffrage. En effet, plus tard dans son enseignement, c'est avec la poésie chinoise et dans la manière de la déclamer sous forme de modulation chantante plus que dans la recherche du sens que Lacan trouvera un parallèle avec cette voix phonique, comme la nomme Colette Solaire, je la cite, requise pour faire résonner les équivoques de la langue. Au jour d'aujourd'hui, je me dis c'est donc vrai, l'inconscient c'est du chinois à déchiffrer et à chanter. Troisième paragraphe. Savoir quoi que ce soit. Je cite Lacan. Autrement dit, que le langage n'est pas seulement communication, ce fait s'impose de par le discours analytique. Donc, au début de ce paragraphe, Lacan insiste encore en affirmant que le langage n'est pas qu'un moyen de communication, pas plus que la langue. En effet, parler ne sert pas seulement à communiquer, mais avant tout à jouir. C'est seulement dans l'analyse que le sujet essaye d'élaborer en langage quelque chose dont il est affecté, affecté dans sa jouissance. La langue est un savoir parlé, parlé par l'affect. Dans ce savoir, l'articulation signifiante n'est qu'une condition nécessaire, mais pas suffisante, pourrait-on dire. Je continue la lecture. Donc, le langage n'est pas seulement, pas seulement communication, je continue avec Lacan, à le méconnaître, il a surgi dans les bas-fonds de la science cette grimace qui consiste à interroger comment l'être peut savoir quoi que ce soit. Ce sera aujourd'hui le pivot de ma question sur le savoir. Alors, si l'inconscient, la langue, est un savoir, cela n'a rien à voir avec le savoir de la science, qui lui forclôt la dimension du sujet. L'idéal de la science étant d'obtenir un savoir qui puisse se transmettre intégralement, un savoir sans faille, sans trou, un savoir qui se sait. Les bas-fonds de la science, comme les nomme Lacan, ce sont les lieux d'expérimentation, où l'on confond apprentissage et savoir, là où grouille ce que l'on appelle les rats de laboratoire, que ce soit les animaux ou les expérimentateurs qui cherchent ce que peut bien être le savoir des êtres qui ne parlent pas. Mais connaissant l'érudition de Lacan, on peut aussi se demander si, par les bas-fonds de la science, il ne fait pas référence à l'expression de l'abbé Amard, qui a critiqué ainsi, les bas-fonds de la science, les propos tenus par la première traductrice du livre de l'origine des espèces de Charles Darwin, Clémence Royer, membre de la Société d'anthropologie de Paris. En effet, cette dernière, dans sa préface de l'œuvre de Darwin, dénoncée plus tard d'ailleurs par Darwin lui-même, tenait des propos proches de l'eugénisme à l'appui de théories expérimentales. Mais il y a aussi cette grimace dont parle Lacan, qui, elle, peut faire penser aux expériences faites par Duchesne de Boulogne sur certains patients obtenus par des chocs électriques où, sous couvert de la science, on essayait de savoir quoi que ce soit. En effet, l'électricité permettait la contraction de certains muscles, il y avait donc un effet. En plus de cet aspect scientifique, Duchesne de Boulogne développait un aspect artistique, puisqu'il publiera les photos de ses expérimentations, photos qui d'ailleurs sont réutilisées par Darwin lui-même. En fait, la réponse Lacan la donne dans la troisième partie de cette leçon, quand il nous dit quelques pages plus loin, je le cite, « Pour introduire un discours scientifique concernant le savoir, il faut interroger le savoir là où il est, ce savoir en tant que c'est dans le gîte de la langue qu'il repose veut dire l'inconscient. Je ne développerai pas plus, car c'est ainsi que commence le passage que nous avons choisi pour notre prochain séminaire dans 15 jours et qui sera commenté par Claire Duguay. » Pour terminer, je voudrais vous faire part d'un questionnement concernant la phrase « La langue nous affecte d'abord par tout ce qu'elle comporte comme effet d'affect qui sont d'affect. » J'ai longtemps eu l'impression que les témoignages d'affect de jouissance de la langue étaient souvent rapportés par l'intermédiaire de cas cliniques de sujets bilingues, comme si le bilinguisme avait une affinité toute particulière avec la langue en un seul mot, comme si cela facilitait l'émergence d'une la langue propre au sujet. Et en même temps, je n'en suis pas si sûr. Alors je vais essayer de vous apporter deux contre-exemples à défaut de théorisation. Tout d'abord, et je remercie Patricia de me l'avoir fait connaître, il s'agit d'un passage du livre de Michel Léris, Bifur, paru en 1948 et que vous connaissez sans doute. Dans le premier chapitre, intitulé « Heureusement », Michel Léris raconte un souvenir d'enfance lorsque, faisant tomber un soldat de plomb avec lequel il jouait et celui ne se cassant pas, il s'écrie « Heureusement ». L'adulte, présent à ses côtés, lui fait immédiatement remarquer qu'on disait « heureusement » et non pas « heureusement ». Aussitôt, Michel Léris ressentit un sentiment étrange, un malaise qu'il ne put définir. Je vous livre son dernier paragraphe. Sur le sol de la salle à manger ou du salon, le soldat de plomb ou de carton-pâte vient de tomber. Je me suis écrié « heureusement ». L'on m'a repris. Et un instant, je demeure interdit, en proie à une sorte de vertige, car ce mot, mal prononcé, et dont je viens de découvrir qu'il n'est pas en réalité ce que j'avais cru jusque-là, m'a mis en état d'obscurément sentir, grâce à l'espèce de déviation, de décalage qui s'est trouvé de ce fait imprimé à ma pensée, en quoi le langage articulé, tissu arachnéen de mes rapports avec les autres, me dépasse, poussant de tous côtés ses antennes mystérieuses. » Fin de citation. Il est difficile de mieux décrire l'effet d'affect, signe d'une jouissance qui dépasse le sujet. Le deuxième exemple est plus clinique. Il s'agit d'un cas du début de ma pratique avec les enfants, il y a une vingtaine d'années. Je recevais alors un jeune garçon depuis pas mal de temps pour difficulté de concentration. Et la particularité, c'est que je m'ennuyais beaucoup. On s'ennuyait beaucoup, mais vraiment beaucoup. Le contenu des séances était très factuel. Il décrivait ses journées, heure par heure, et mes interventions, tentatives de scansion, n'y faisaient rien. Un jour, il me parle de son chien nommé Marius. Je lui avoue immédiatement mon intérêt à donner un nom d'être humain à un chien. Devant son air étonné et son mutisme par mon commentaire, je commence à lui parler de l'œuvre de Marcel Pagnol. Et je lui dis exactement « Mais tu ne connais pas la trilogie de Pagnol, Marius, Fanny et Pénis ?» Un grand silence s'installe entre nous. Puis, il me regarde fixement, se cachant le visage dans ses mains, et me dit en rougissant, « Il ne faut pas dire des trucs comme ça. C'est comme les SEINS des filles. Et d'associer sur l'excitation qu'il éprouve à voir sa sœur se faire gifler parfois par son père. Voilà ce qui le préoccupait. Et après, bien sûr, vous vous en doutez, nous ne sommes plus jamais ennuyés en séance. Alors si l'on peut dire que pour lui, ce lapsus de l'analyste a eu un effet d'association, signe de son inconscient déchiffrage qui se mettait au travail, pour moi, encore sujet analysant, l'effet en fut tout autre. En fait, mon lapsus m'a fait sourire malgré moi. Pourtant, à l'époque, étant plutôt sujet à la honte, voire à la culpabilité, à la recherche incessante de la faute, cherchant un modèle en permanence, du bon élève au bon analyste, je fus surpris par un frisson dans tout le corps. Et c'est tout. Et ça, ce fut une sacrée énigme. Je vous remercie.
Donc, je passe la parole à Patricia qui va nous parler sur Patricia Nahan, psychanalyste à Paris, qui va nous parler sous le titre Pourquoi pour la psychanalyse, le savoir est-il une énigme ?
Donc on va parler de l'énigme et je te remercie Didier de terminer par l'énigme, ce qui va me permettre de faire une transition, parce que je voudrais parler de la réponse que l'analysant trouve à sa propre énigme à la fin de l'analyse. Depuis le début de son enseignement, Lacan utilise la référence à l'énigme pour représenter les formations de l'inconscient. Sa définition de l'énigme, qui ne varie pas jusqu'à la fin de son enseignement. Il ne marche pas ?
Il doit marcher.
Bah, on entend bien.
Non, là, ça ne marche pas.
Ah, ça y est. C'est bon, hein ? Je crois que. Là, vous m'entendez ? Alors, la définition que donne Lacan de l'énigme, et c'est une définition qui ne varie pas jusqu'à la fin de son enseignement, c'est une énonciation dont on ne connaît pas l'énoncé. Au moment où il commence à en parler, cette définition s'applique essentiellement aux symptômes, quand dans son enseignement, le symptôme pouvait être mis dans la série des formations de l'inconscient. C'est-à-dire que le symptôme était défini comme une structure de métaphore. Or, la structure des formations de l'inconscient est d'être déchiffrable. Dire dans les années 50 que le symptôme est une énigme, c'est l'inscrire dans une structure de langage. Et de ce fait, accentuer dans la pratique analytique le déchiffrage et l'interprétation, par opposition à la tendance des post-freudiens à prôner le renforcement du moi. La fonction de l'énigme, dans son rapport à l'énonciation et à l'énoncé, fait référence à la structure du sujet qui naît à partir d'une contradiction. Le sujet se construit à partir de l'opposition Beyaung-Verneuillung, c'est-à-dire qu'une première affirmation, dire oui à la loi du père, est suivie du refoulement du désir de la mère, qui équivaut à une négation ou une élision de ce désir au niveau du conscient. D'où la spécificité pour le sujet névrosé de ce qui se met en place à partir de l'affirmation et la négation. Ce que le sujet exprime par une négation est une affirmation de l'inconscient. Quand le sujet dit « je ne dis pas », c'est justement au moment où il dit quelque chose. Ou alors, le nœud exprime donc à ce moment-là une discordance entre énonciation et énoncé. L'énigme renvoie donc à la duplicité qui existe toujours dans la fonction du langage, et cette duplicité est illustrée par le graphe avec les deux étages du graphe. Le graphe met en évidence la distinction entre le processus de l'énonciation et le processus de l'énoncé. D'emblée, cette distinction introduit une discordance du sujet entre le je de l'énonciation et le je de l'énoncé. Dans la phrase « je crains qu'il ne vienne », le sujet en fait une négation pour affirmer « je crains qu'il vienne ». De ce fait, le jeu d'énonciation est un jeu trompeur. Comme dire « je mens », c'est précisément au moment où le sujet dit la vérité. Dans l'énonciation, le sujet exprime quelque chose qui lui échappe, qu'il ne peut pas savoir. Il ne peut le savoir que par le déchiffrage. L'énonciation exprime un désir qui est à déchiffrer, comme va nous le montrer l'analyse d'un rêve. Pour illustrer la fonction de l'énigme dans les formations de la conscience, je vous propose un rêve dont j'ai entendu le récit à des funérailles. Une personne faisait un discours en l'honneur du défunt et a raconté un rêve qu'il avait fait la veille. Alors, voilà on peut dire que le récit du rêve, c'est l'énonciation. Et voilà le rêve, un poisson sort de l'eau. On peut dire que le rêve se présente comme une énigme. Les associations du rêveur le conduiront à un énoncé. Au réveil, il pense que le poisson est une dorade qui sort de la mer. Il pense d'abord que la mer est la mer Baltique. C'est une région dont il est lui-même originaire. Et il se dit que, malgré tout, la mer Baltique a une particularité, elle n'est pas très salée. Alors il dit que, bon, ben, peut-être c'est pas une mer, c'est un lac. Alors, si c'est un lac, c'est pas une dorade. Bon, alors, ça doit être un sambre. Et alors, c'est un sambre qui sort de l'eau, et le lac, ça doit être le lac Léman. Alors, il se trouve que ces funérailles étaient une crémation. Et la personne qui a été incinérée avait demandé que ses cendres soient dispersées sur le lac Léman. Donc, le rêve donc, exprime le désir de voir la personne ressuscitée, de voir les cendres sortir de l'eau. Ce déchiffrage permet d'illustrer le rapport énonciation-énoncé et la fonction de l'énigme donc, dans les formations de l'inconscient. On retrouve, comme je le disais tout à l'heure, donc chez Lacan, jusqu'à la fin de son enseignement, la référence à l'énigme avec toujours la même définition, une articulation énoncé-énonciation. Mais à partir des années 70, il n'est plus question des formations de l'inconscient ou du symptôme défini par sa structure de métaphore, mais de jouissance. Lacan passe du symptôme comme énigme au savoir comme énigme. Le passage du symptôme au savoir permet d'introduire la notion de jouissance car l'exercice du savoir représente une jouissance. Cela renvoie aux deux approches de l'inconscient dont parlait Didier tout à l'heure, l'inconscient élaboré comme langage et l'inconscient comme savoir. Dans le passage commenté par Nadine Naïtali Cordova il y a deux séances, Lacan affirme « Je vais droit à ce dont il s'agit, le savoir est une énigme. » Et un peu plus loin, elle s'énonce ainsi « Pour l'être parlant, le savoir est ce qui s'articule. » Or, d'après Lacan, le discours analytique a pu mettre en évidence que ce qui s'articule est ce qui est interprétable. Ce savoir est interprétable. Ce savoir inconscient, on en jouit et il est dérangeant. Par ailleurs, on peut dire aussi que le savoir inconscient est articulé au langage, hein, 1S1 articulé à 1S2. Et il est aussi articulé à la langue. L'inconscient est un savoir qui, pour une grande part, échappe à l'être parlant. Et comme le soulignait tout à l'heure Didier, pour l'être parlant, ses affects lui sont très souvent énigmatiques. Ils peuvent ne pas l'être. Ces affects énigmatiques peuvent être abordés par des effets de la langue qui se manifestent sur le corps. Il y a un savoir dans la langue qui dépasse de beaucoup tout ce qui peut être énoncé. C'est un savoir insu. C'est un savoir qui ne s'apprend pas, il est à distinguer de la connaissance. Dans ce dernier chapitre du séminaire encore sur lequel nous travaillons en ce moment, donc cette question est centrale. Le savoir de l'inconscient n'est pas un savoir appris, ce n'est pas un savoir absolu, c'est un savoir qui est interprété, il fait énigme. En raison de la nature même de la langue, ce savoir qui existe dans l'inconscient n'est pas un savoir harmonique, il est disharmonique, il a un effet sur le corps qui dérange. En faisant équivaloir la jouissance phallique et la jouissance sémiotique de la langue, Lacan souligne que la jouissance de la langue est une jouissance hors corps qui parasite le corps. Ce savoir qui existe est dérangeant. Les sèmes de la langue ont un sens opaque. La confusion, je cite, la confusion des sentiments, c'est tout ce que la langue est faite pour sémiotiser, dit Lacan dans le séminaire Les Noms du Père. Ce savoir qui n'est pas harmonique, Lacan l'oppose à celui de la religion ou de la métaphysique qui, lui, se voudrait harmonique ou providentiel pour ne pas faire énigme. Si Lacan insiste jusque dans les derniers séminaires sur la question de l'énigme, c'est aussi parce que, en ce qui concerne le savoir inconscient, l'énigme met au travail aussi bien l'analysant que l'analyste. Le savoir de l'inconscient est un savoir qui se déchiffre, il fait énigme, il est différent des autres savoirs. Lacan disait que cela lui demandait beaucoup d'efforts de nous mettre au travail et il utilisait, pour aborder des points théoriques importants, des formules énigmatiques qui nous forcent à réfléchir et qui sont à déchiffrer. Dans la lecture des textes de Lacan, on croit avoir saisi un sens dans une première lecture et... Autant de fois qu'on relise le passage, on en dégage quelque chose de nouveau, ce qui nous remet sans cesse au travail. Alors, je reviens à ma question. Pourquoi le savoir pour la psychanalyse est-il une énigme? L'énigme est du côté de la psychanalyse, car l'inconscient, dit Lacan, en sait plus long que ce qu'il laisse paraître. Et l'analyste ne donne pas du sens aux symptômes, il les traite comme une énigme. Quant au savoir de l'analyste, c'est un savoir à toujours mettre en question. Voici comment Lacan l'illustre dans le séminaire « Le savoir du psychanalyste ». Il construit un tétrapode, que j'ai donc déjà écrit au tableau, et inscrit sur les quatre pôles les termes de « semblant » ou « jouissance »,« vérité » et « plus de jouir ». Ces quatre pôles correspondent aux quatre termes des quatre discours élaborés par Lacan. Il commente ce schéma en disant que l'inscription du discours de l'analyste sur ce tétrapode, donc vous voyez que j'ai inscrit les lettres du discours de l'analyste, consisterait à faire surgir du savoir la fonction de la parole. Dans cette écriture, on peut voir que pour le discours de l'analyste, le savoir, enfin, S2 donc, est à la place de la vérité. Vérité qui ne peut être que médite, ce qui ne donne à l'analyste qu'une place de supposé savoir. Enfin, une place supposée au savoir. D'où sa position de toujours remettre ce savoir en question. Dans le texte Litterateur, Lacan met l'accent sur le fait que la lettre indique le bord du trou du savoir inconscient. Un symptôme, même déchiffré, reste une énigme. Il reste un savoir de l'inconscient que le déchiffrage ne suffit pas à atteindre. Un savoir est à déchiffrer, mais il y a un reste qui peut encore faire énigme. La lettre révèle ce qui fait trou, ce qui fait énigme. Elle met le savoir en question dans la psychanalyse. Le comble du sens, il est sensible que c'est l'énigme, dit Lacan, ce qui donne au sens un statut d'énigme. Le sens n'est jamais atteint, il n'y a pas de sens absolu, il fait toujours énigme. Par le déchiffrage, la suite des signes prennent sens. Il n'en reste pas moins que cela peut faire trou, car même un message déchiffré peut faire énigme. Dans l'édition allemande des écrits, Lacan parle de la fuite du sens. Il veut dire par là que les effets d'un discours sont incalculables. L'interprétation, comme tout discours, a des effets incalculables. Si le sens fuit, on n'aboutit pas à un sens final. On peut donc dire que le sens fait trou. Il est énigme. C'est pour cela que le comble du sens, c'est l'énigme. Au départ, ce qui fait énigme est ce que Lacan appelle l'opacité sexuelle. Il n'y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de l'autre est toujours énigmatique. Or, tout ce qui s'écrit supplée au rapport sexuel qui ne peut pas s'écrire. L'énigme est liée à l'écriture et à ce qui peut se lire entre les lignes. L'énonciation, c'est l'énigme portée à la puissance de l'écriture, dit Lacan dans le séminaire Le Symptôme. Sur le rapport entre l'énigme et l'écriture, Lacan donne un autre exemple. Dans le séminaire Les Noms du Père, à la séance du 23 novembre 1973, il propose les deux écritures, les noms du Père et les noms du Père, mais qu'on dit les noms du Père. C'est le même savoir, dit-il, puisque ça se déchiffre, mais ce n'est pas le même sens. Le sens est donné par l'écriture, puisque les deux ne s'écrivent pas de la même façon et que l'on comprend le sens en le lisant. Et puis on a aussi cet exemple. Dans le séminaire Le Symptôme, Lacan fait apparaître que l'analyse est une réponse à une énigme. Et une réponse tout à fait spécialement conne, dit-il. Il le dit à propos d'un petit poème dans Ulysse que Stéphane propose à ses élèves sous forme d'énigme. Lacan présente ce poème comme une énonciation. Après qu'aucun des élèves n'ait pu trouver la réponse à l'énigme, la réponse est donnée par Joyce, par l'intermédiaire de Stéphane. Lacan souligne le décalage entre ce petit poème en vers et le côté absurde et dérisoire de la réponse. Qui est, je vous le donne en mille, dit Lacan, alors voilà la réponse, le renard enterrant sa grand-mère sous un buisson. Si on lit ce petit poème, on voit qu'il n'est ni question de renard, ni de grand-mère dans l'histoire. Lacan présente Joyce comme l'écrivain par excellence de l'énigme. Et il se sert de cet exemple pour montrer que la réponse à l'énigme est la réponse que le sujet choisit de donner. À la fin de l'analyse, l'analysant obtient un sens. Il décide d'arrêter la recherche du sens quand il trouve un sens qui lui convient, comme le faisait le rêveur de tout à l'heure. Il a arrêté ses associations quand il y a eu un sens. Dans l'inverse de la psychanalyse, Lacan donne un autre exemple, celui de la réponse de Oedipe à l'énigme de la sphinge. Quel est l'animal qui, le matin, marche sur quatre pieds, le midi sur deux et le soir sur trois pieds? Oedipe répond, c'est l'homme. Mais Lacan souligne que Oedipe aurait pu donner une autre réponse qui aurait pu être tout aussi juste. À la fin de l'analyse, l'analysant trouve une réponse à sa propre énigme. Ce qui compte, ce n'est pas que la réponse soit juste, ce qui compte à la fin de l'analyse, ce sont les effets qui s'en suivent. Peu importe la nature du sens donné à sa propre énigme, pour Oedipe, on connaît les effets, hein, les effets de sa réponse par la suite de son histoire. On peut considérer que l'énigme est une énonciation et que l'interprétation la transforme en énoncé. Ce que Lacan souligne avec ces exemples, c'est que l'analysant donne sa solution à sa propre énigme. La réponse à l'énigme peut être tout à fait conne, comme le dit Lacan, mais le sens qu'elle produit, si elle satisfait l'analysant, a des effets considérables. L'analyse consisterait donc à déchiffrer sa propre énigme, mais il n'y aurait pas une seule solution à l'énigme, pas de savoir absolu. Alors, il paraît qu'il y a... il y a un petit problème d'enregistrement là ce soir. Et ben, je reviens au rêve. Non, il n'y en a pas. Non, pardon. Alors, il n'y en a pas. Mais, pour terminer, hein, là, je reviens à ce petit rêve là que j'ai amené tout à l'heure. Et la personne décédée, certains d'entre vous l'ont connue, c'était quelqu'un qui s'asseyait ici au premier rang et qui ne manquait pas des séminaires du jeudi, qui venait régulièrement et qui enregistrait systématiquement toutes les séances. Et à ce moment-là, c'était des cassettes qu'on avait et donc ça doit constituer aujourd'hui un fond d'archives des enregistrements des premiers séminaires. Et la personne qui, dans son discours, a raconté le rêve que je vous ai rapporté était, vous l'avez deviné, un psychanalyste lacanien qui, dans cet exercice, nous a donné un petit exemple sur la façon de déchiffrer sa propre énigme. Voilà.
Merci Patricia.